Dossier 6, je me cultive.
Dossier 6, page 93.
Activité 3.
Bonjour. Dans le cadre de notre émission La culture pour tous, nous allons aujourd'hui commenter deux tableaux pour nos auditeurs.
Avec ce tableau, le peintre a fait scandale en 1905. C'est le portrait de sa femme, assise, le buste de profil, la tête de trois quarts, le bras ganté sur le dossier de la chaise, coiffé d'un immense chapeau à la mode du jour. Une fantastique explosion de couleurs avec ce chapeau à plumes multicolores posé sur une chevelure brique, couronnant un visage marbré de vert, de rose et de jaune. Ce tableau a été exposé au célèbre salon d'automne en 1905. À cette occasion, le journal Le Matin a écrit « On a jeté un pot de couleurs à la face du public ». Le peintre a en effet choqué en utilisant du rouge, du vert et du jaune pour peindre le visage. Du coup, la femme du peintre n'a pas osé visiter l'exposition. Le peintre s'est défendu en disant que le choix de ses couleurs est basé sur le sentiment, sur l'expérience de sa sensibilité. Le destin du fauvisme s'achèvera 2 ans après le scandale du salon d'automne de 1905. Chacun des fauves se dirigera vers d'autres horizons plus personnels.
Ce spectaculaire tableau de 1925 est un tableau cubiste qui représente un marbre vert et des fruits posés sur un linge blanc. Les couleurs sont limitées à une palette de brun, de vert, de jaune et de gris, relevées par le bleuâtre des raisins. Les objets sont traités en gros plan et occupent la toile en son centre. Ils donnent le sentiment d'être proche du spectateur. La structure et la construction des objets sont plus importantes que la couleur. On peut voir que ce tableau maîtrise parfaitement l'espace.
Dossier 6, page 94.
Activité 2 et 3.
1.
Toute l'actualité du livre, c'est sur France Info et dans le magazine littéraire. Aujourd'hui, nous recevons Josiane Balasco pour son livre passionnant et original, Parano Express, publié chez Fayard.
Deux.
Mesdames et messieurs, la pièce de ce soir, divertissante et pleine d'images de notre temps, vous est présentée par la troupe du Val-de-Marne. Nous vous souhaitons une excellente soirée dans la salle Molière et vous prions d'éteindre vos portables pendant toute la durée du spectacle.
Trois.
Venez tous assister aux 10e internationales de la guitare à l'hôtel de Magny à Montpellier. Cette manifestation unique en Europe nous dévoile l'infinie richesse de cet instrument. La guitare sous toutes ses formes, celle de ses histoires, celle de ses paysages, celle de ses cultures.
4.
Plic, ploc, plein de gouttes et plein de notes. Les enfants, venez tous assister à ce spectacle inoubliable au Cirque de l'Imaginaire, sous notre chapiteau, et n'oubliez pas d'inviter vos parents.
5.
8 concerts, 10 créations, 41 compositeurs pour l'île de découverte. L'Orchestre National d'Île-de-France organise pour la première fois un festival de musique contemporaine parrainé par Pierre Boulez. Concerts, tables rondes, projections de films, présentations d'œuvres, rencontres, ateliers pédagogiques, des manifestations aussi enrichissantes que variées sont prévues durant 3 jours dans toute la ville. Ces manifestations sont gratuites dans la limite des places disponibles.
Dossier 6, page 98.
Activité 1.
Nous sommes allés à la sortie d'une projection du film indigène de Rachid Bouchareb. Ce film récompensé à Cannes nous montre enfin le rôle des soldats nord-africains engagés dans l'armée française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Écoutez les commentaires des spectateurs.
C'est très bien de commémorer le souvenir de ces combattants, je pense, et de remettre un petit peu les pendules à l'heure pour l'histoire. J'ai beau être étudiant en histoire, on m'a pas fait étudier la présence de ces coloniaux dans notre armée. Enfin, on met toujours en avant que la France a été libérée par les Américains. Je pense que c'est bien aussi de montrer cette part de l'histoire.
Ça m'a permis de comprendre un peu plus l'histoire aussi. L'histoire, c'était pas trop mon fort non plus à l'école, et ça permet de comprendre un petit peu plus ce qui s'est réellement passé à l'époque, quoi.
C'est honteux qu'on n'ait pas récompensé ces gens-là. Maintenant, il est bien temps. J'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Et je savais bien qu'on avait mis les gens d'Afrique du Nord et d'ailleurs, des tirailleurs qu'on appelait les tirailleurs sénégalais et autres. On les appelait tous les tirailleurs sénégalais, bien qu'ils viennent d'ailleurs. Et ils avaient tous été mis en première ligne, quoi. Tous les coups durs, c'était pour eux. C'est affreux à voir parce qu'on voit la guerre. On n'en sort pas indemne.
Déjà, c'est un beau film. Et puis, je pense que c'est un trait de l'histoire qui a mis à la surface, qui avait été effacé, tout du moins dont on ne s'est pas occupé pendant des années. Et je pense que ça a eu le mérite de remettre les points sur les i, puisque il me semble que le gouvernement français a octroyé, ou tout du moins est en train d'octroyer, les pensions qui ont été gelées en 59. Donc, je pense que ça a le mérite d'exister et il fallait que ça se sache, quoi.
Je pense que c'est un film assez dur et qui a le mérite pour des générations plus jeunes de mettre sur le devant des choses qu'on a tendance à oublier, qu'on n'a pas nous vécues.
Dossier 6, page 99.
Activité 5, 6 et 7.
Bonsoir à tous, bienvenue en public au Studio 101 pour notre émission Les Trois Coups consacrée ce soir à l'actualité théâtrale. Nous allons commencer par ce spectacle, Les Nuits Blanches de Dostoïevski. Cette pièce est mise en scène et jouée par Xavier Gallet. Vous la conseillez ? Christelle, c'est à vous.
Ah non, pas du tout, c'est trop compliqué.
Et vous, Thomas, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est très triste car l'acteur est formidable, mais il n'est pas fait pour la mise en scène. Et puis, il utilise la vidéo, c'est la mode au théâtre en ce moment, mais là, c'est totalement inutile.
Antoine, vous avez la parole.
Je renouvelle mon admiration pour l'acteur, mais je crois comme Thomas qu'il n'est pas fait pour la mise en scène. C'est un spectacle purement cérébral, pas très intéressant.
Donc je sens que vous allez tous courir voir Les Nuits Blanches à l'atelier. Un mot rapidement maintenant de ce très très grand écrivain portugais qu'est Fernando Pessoa, et dont Alain Olivier met en scène au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, Le Marin, avec Anne Alvaro, Sylvie Pascot. Franchement, je préfère que vous en disiez un mot rapidement vous-même. Clément ?
Fuyez.
Antoine ?
Dormez.
Thomas ?
Non, moi je trouve ça intéressant. C'est très... comment dire ? C'est presque religieux, c'est un peu comme la messe, quoi.
Antoine ?
Si vous le permettez, je crois qu'il faut dire la vérité. Si on veut faire fuir les gens, si on veut brouiller les gens avec le théâtre, on leur montre ça et ils n'y retournent jamais.
Écoutez, moi je ne suis pas du tout de cet avis. Le langage de Pessoa est extraordinaire. C'est très beau à entendre et à regarder.
On a tout à fait le temps de conseiller différents spectacles. Eh bien, on va faire un premier tour de table avec Christelle.
J'en ai plusieurs.
Ah bon, on commence par un et on reviendra à vous après.
Alors par quoi vais-je commencer ? Ah oui, je vais commencer par Richard de Marcy. Ça s'appelle « Les vies courtes », c'est un hommage à la francophonie, c'est plein de musique, de danse, c'est grave et c'est charmant.
Thomas, un spectacle à conseiller ?
Oui, alors un conseil, mais il reste malheureusement peu de temps puisque le spectacle ne se donne que jusqu'au 1er avril. Il faudrait vraiment aller voir Filomena Marturano. C'est une pièce d'Eduardo de Filippo qui est, comme vous le savez, cette pièce qui a donné lieu à « Mariage à l'italienne » qui était jouée au cinéma par Mastroianni et par Sophia Loren. Mais là, eh bien, je ne crains pas de vous le dire, c'est beaucoup mieux qu'au cinéma. Et je pense que Christine Gagneux est absolument éblouissante, royale, et meilleure que Sophia Loren, mais 100 fois.
Pour ma part, je suis beaucoup moins enthousiaste que Thomas. C'est un spectacle sympathique, sans plus.
Mais non, voyons, vous ne pouvez pas dire ça. C'est un spectacle extrêmement réjouissant.
Je suis désolé de vous interrompre, mais malgré toute la sympathie que m'inspire la pièce, je ne trouve pas que ce spectacle soit meilleur que le film. C'est plutôt le contraire.
Laissez-moi finir, Clément. C'est un spectacle très drôle, tragique, grandiose et magnifique, que je recommande à tous nos auditeurs.
Le titre ?
Philomena Marturano.
Tous ces conseils, vous les retrouvez évidemment sur le site de troiscoupsradiofrance.com. Merci beaucoup à tous pour cette émission. Dossier 6, page 101.
Activité 3, 4 et 5.
Allô, c'est toi Sébastien ?
Oui, c'est moi. Bonjour Marine. Qu'est-ce que tu deviens ?
Je voudrais te demander des conseils. Tu sais, il y a ma grand-mère qui vient passer quelques jours et je lui ai promis de l'emmener voir un truc sympa. Il faudrait quelque chose qui ne soit pas trop violent, bien sûr, ou il y ait de belles images, qui fasse rêver, quoi. Dis-moi, tu connais un film ou une pièce de théâtre qui puisse lui plaire ? Et à moi aussi, tant qu'à faire.
Bah écoute, au cinéma, déjà, n'allez pas voir le Da Vinci Code. C'est le film le plus mou que j'ai jamais vu, et les comédiens sont très mauvais. J'ai été super déçu, tu penses ? Par contre, vous pourriez aller voir Quand j'étais chanteur, avec Gérard Depardieu. C'est un des films les plus émouvants que j'ai vus ces temps-ci. Et ça pourrait plaire à ta grand-mère. C'est la rencontre d'un chanteur de bal et d'une jeune femme. En tout cas, moi, ça m'a bien plu.
Et au théâtre, tu connais quelque chose qui convienne au septuagénaire ? Non, je plaisante. Car en fait, elle est très jeune d'esprit.
Bah, au théâtre, j'ai vu une reprise de la comédie musicale Les Misérables, par de jeunes étudiants. C'est très péchu, avec une belle mise en scène classique. En plus, c'est un des rares spectacles qui soit au profit d'une œuvre de bienfaisance. C'est pour les jeunes handicapés. Ou alors, il y a Dis à ma fille que je pars en voyage. C'est une pièce à voir. Moi, j'en suis sorti complètement bouleversé. Par contre, le sujet est peut-être un peu sévère. C'est l'histoire de deux femmes qui se rencontrent en prison.
Excuse-moi, mais là, ça ne me dit rien du tout. Le thème me tente pas trop. J'ai plutôt envie d'aller voir le film Quand j'étais chanteur. Ça a l'air bien et... En plus, je suis sûre que ça va plaire à mamie.
Dossier 6, page 102.
Sur tous les tons.
1.
À quel âge avez-vous commencé à peindre ?
2.
Vous allez exposer combien de tableaux ?
3.
Vous peignez pour vous détendre ?
4.
Vous mettez combien de temps pour peindre une toile de cette taille ?
5.
Vous allez exposer toute votre œuvre ?
6.
Dans votre famille, il y avait un peintre de grand talent ?
7.
Vous avez rencontré Picasso ?
Bilan, dossier 6.
Bonjour Elisa. Il s'est passé 15 ans depuis le premier album où vous chantiez avec votre mère. Vous ne vouliez plus chanter ?
Non. En fait, ça s'est réveillé doucement. J'ai d'abord enregistré avec ma mère à 14 ans, puis à 16. Et ça me semblait évident que je ne pouvais rien faire sans elle. J'ai quand même réalisé que j'avais du plaisir à chanter, mais ça m'a pris du temps. Et j'avais besoin de trouver mon propre style.
Et vous pensez à monter sur scène maintenant ?
Ah oui, évidemment. Je vais chanter en direct dans une émission à la télévision. J'en ai jamais fait l'expérience, alors je n'ai aucun moyen de savoir si j'en suis capable. Mais je le fais quand même. Je suis persévérante, vous savez, c'est mon point fort.
Comment vivez-vous votre succès, Elisa ?
Je ne peux jamais me reposer sur le sentiment d'avoir réussi. À chaque fois que je m'autorise à être contente de ce que j'ai fait, le lendemain, je me mets à douter. Ah là là, parfois c'est vraiment pénible.
Quand avez-vous eu le sentiment d'apprendre vraiment ?
Au théâtre. Mais il m'a fallu longtemps avant de comprendre ce que savent tous les comédiens. Plus on travaille une scène, plus on devient spontané.
Vous avez des modèles ?
Ah oui. Et surtout des femmes. J'avais, moi, une culture de cinéma français classique. Mais j'ai découvert des actrices immenses aux États-Unis.
En musique, quelles sont vos références ?
Eh bien, j'écoute toujours beaucoup de comédies musicales. J'ai été élevée avec ça. Et puis, je suis très portée sur les musiques de films.
Et maintenant, actrice ou chanteuse ?
Ah, j'ai envie de continuer à chanter. Moi, je trouve que c'est difficile de combiner les deux.
Dossier 7, je sauvegarde.
Dossier 7, page 110.
Activité 2.
Bonjour à tous. L'actualité de notre ville aujourd'hui. Tout d'abord, une annonce à tous les habitants. Le Carrefour des citoyens se déroulera les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de la semaine prochaine. Inscrivez-vous vite. Un petit mot sur cette rencontre. Le Carrefour des citoyens réunit entre 200 et 400 personnes chaque année. Il constitue un moment fort de dialogue et d'échange entre les habitants des quartiers, le maire et les élus. C'est important d'y participer car c'est une occasion de faire le point sur toutes les questions qui concernent votre quartier. Vous pourrez les poser et participer à des débats en présence du maire de Nantes, d'une élue représentant les habitants du quartier et du premier adjoint au maire, délégué aux grands projets urbains et à la politique de la ville. Les thèmes traités iront de la transformation urbaine à la qualité de l'environnement en passant par la tranquillité publique. Le débat est ouvert à tous les Nantais. Allez-y nombreux.
Dossier 7, page 111.
Activités 5 et 6.
Bonjour à tous. Voilà l'heure du bilan des activités lancées par la ville. Vous allez nous faire part de vos remarques et de vos nouvelles suggestions. Nous allons faire un tour de table. On va commencer par Monsieur Godard.
Les tramways et les bus permettent de pouvoir aller à peu près partout sans voiture. Maintenant ça, c'est formidable. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'avec les travaux, ils ont démoli des vieilles maisons. Alors ça me fait mal au cœur. Et je dis que Nantes ne doit pas continuer de faire l'erreur de détruire systématiquement son patrimoine historique et architectural.
Et vous, Madame Ferrand, vous voulez dire quelque chose ?
Bon, pour moi, dans le quartier, faudrait encore faire rapidement quelque chose pour le bruit quasi permanent de la papeterie. Rien n'avance par rapport à ce qui était promis. Le directeur de la papeterie a changé et il conteste l'étude qui a été faite. On n'a même pas pu la lire. On nous avait promis une machine moins bruyante, mais rien de ce que nous avions demandé n'a été réalisé.
Le point de vue des commerçants, Monsieur Duchesne ?
Eh bien moi, en tant que représentant des commerçants de la zone sud de Nantes, je trouve que depuis 2 mois, nous avons une baisse de clientèle très très importante. Et forcément, on ne peut plus se garer nulle part. Il faudrait augmenter les places de stationnement et créer un nouveau parking en centre-ville.
La parole à la jeunesse.
Il y a un truc génial maintenant. C'est qu'on va pouvoir faire un tour dans la ville sur un éléphant en bois de 12 mètres de haut. Et il paraît qu'on pourra monter à 35 dans l'éléphant. Je suis sûre que ça va plaire aux touristes et qu'ils viendront du monde entier pour le voir.
Oui, bah c'est vrai. C'est bien de vouloir attirer les touristes dans notre quartier. Mais je ne sais pas si l'éléphant, c'est la meilleure idée. Parce qu'il va marcher au gasoil, l'éléphant. Et en plus, il va coûter 2 millions d'euros. Tout ça avec l'argent du contribuable, bien évidemment. En plus, on m'a dit aussi que, grâce à un mécanisme, les gens qui se promèneront sur l'éléphant pourront provoquer quelques barrissements et des effets de poussière. C'est soi-disant pour ressentir les vibrations que provoque un éléphant quand il crie. Non mais vous imaginez le bruit et les nuisances pour les riverains.
Et les étudiants ?
Pour nous, ce qui est chouette, c'est que maintenant on peut aller de l'université au centre-ville à vélo. Il y a des pistes cyclables presque tout le long du parcours.
Dossier 7, page 112.
Activité 3.
1.
La pollution due au transport serait responsable d'environ 25% de la production de gaz à effet de serre. Mais cette proportion serait très sous-estimée.
2.
On aurait dû prendre des mesures avant. On n'en serait pas là maintenant.
3.
Vous devriez mettre le verre dans les containers.
4.
Il aurait fallu commencer à économiser nos ressources dès les années 60.
5.
Tu pourrais fermer le robinet quand tu te laves les dents.
6.
J'aimerais bien installer un système de récupération d'énergie solaire chez moi.
7.
Dans un demi-siècle, les réserves de pétrole auront considérablement diminué, mais le charbon pourra le remplacer et satisfaire les besoins énergétiques des États-Unis.
8.
Vous pourriez m'indiquer la déchetterie, s'il vous plaît ?
Dossier 7, page 113.
Activité 4. Tu sais que si ça continue comme ça, il n'y aura plus de gros singes sur la planète. Je suis dégoûtée. C'est mon animal préféré.
C'est pas étonnant. Nos forêts disparaissent, alors des espèces disparaissent. C'est logique.
Oui, mais tout ça, c'est de notre faute. Si nous consommions moins, nous conserverions notre forêt et les singes ne seraient pas chassés de leur habitat.
C'est sûr, mais d'un autre côté, si les dinosaures n'avaient pas disparu, eh bien les mammifères se seraient moins développés et leurs espèces ne seraient pas si variées. Et peut-être même que les singes n'auraient pas existé.
Mais qu'est-ce que tu racontes ? Comment tu fais pour être toujours aussi optimiste ?
Si tu ne me crois pas, lis cet article. Figure-toi que paradoxalement, une crise écologique peut avoir des conséquences positives. Il ne faut donc pas toujours voir tout en noir.
Bon, je suis d'accord pour les animaux, ok. Mais l'énergie ? Tu as vu le prix de l'essence ? Tu te rends compte ? Si on avait économisé le pétrole, on n'en serait pas là.
Oui, mais si le prix du pétrole n'avait pas autant augmenté, on n'aurait pas développé les énergies renouvelables et propres. Et ça aurait été vraiment dommage.
Oh, tu m'agaces avec tes si. De toute façon, je n'aurai jamais le dernier mot avec toi.
Dossier 7, page 115.
Activité 4 et 5.
Bonjour, nous avons fait une enquête pour la Gazette des Pyrénées afin de savoir ce que vous pensez de la réintroduction de l'ours dans notre région. Écoutez les réactions au micro de Jean-Baptiste Sergent.
1.
Si on ne réintroduit pas les ours, on donne raison aux mauvais chasseurs qui les ont tués dans nos Pyrénées et aux bétonneurs qui veulent une montagne aseptisée. D'accord ?
2.
C'est vrai, les bergers ont peur pour leurs moutons. Franchement, je ne sais pas si l'ours attaque les moutons. Je pense plutôt que l'ours brun européen a peur de l'homme. C'est pas un grizzly. Alors je suis d'accord, il faut reconstruire la biodiversité et arrêter d'éliminer des espèces entières, juste parce qu'elles ne nous conviennent pas.
3.
Je suis contre, car les ours ne nourrissent personne et ne fournissent de travail à personne. Et s'ils bouffent les moutons des gens, ben, ils auront plus de travail et donc pas d'argent.
4.
Bon, s'il n'y a plus d'ours dans les Pyrénées, c'est tout simplement qu'il ne doit plus y en avoir. Il faut vivre avec son temps et ne pas aller contre l'ordre des choses. De plus, il y a certainement plus urgent à faire avec l'argent du contribuable. Et puis, il faudrait penser quand même un peu à ces pauvres ours slovènes qui, eux, n'ont rien demandé, hein.
5.
Moi, je veux bien. Mais si on repeuple nos montagnes avec des ours, il faut parquer les bêtes. Et puis que le gouvernement aide les bergers pour assurer la permanence auprès des troupeaux avec des chiens. Et alors...
6.
En matière d'écologie, il y a des choses plus importantes à régler que la réintroduction de ces pauvres bêtes dans les Pyrénées. La ministre doit vraiment s'ennuyer dans son petit bureau pour avoir ce genre d'idée. L'argent public devrait servir aux gens et à des choses plus utiles.
7.
À l'école, on a appris que l'ours est omnivore. Donc sa nourriture, c'est principalement des insectes, des plantes et des petits rongeurs, des souris ou des rats. C'est seulement si vraiment il ne trouve rien à manger et qu'il a très faim qu'il s'attaque aux moutons. Et puis, j'adore les ours. Et ça va sûrement attirer les touristes.
Dossier 7, page 115.
Rendez-vous alterculturel.
En Allemagne, on parle beaucoup des énergies renouvelables, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Et l'énergie solaire, en particulier, où les habitants qui veulent installer des plaques sur leur toit qui captent l'énergie solaire, ils sont subventionnés par l'État. Et l'État donne une participation de, je crois, c'est 100 euros par mètre carré. Et ensuite, l'habitant peut produire sa propre énergie et il peut vendre l'énergie à l'État. Et mes parents, ils ont installé un système, on appelle ça photovoltaïque, sur leur toit. Et je crois qu'ils touchent environ 8 centimes ou quelque chose comme ça par kilowatt, ce qui est pas beaucoup. Et vu le fait qu'il fait jamais beau en Allemagne, mais quand même c'est bien. L'énergie éolienne est aussi très présente en Allemagne. Je crois que c'est le deuxième pays en Europe après les États-Unis et au niveau de la quantité de parcs éoliens. Et c'est vrai qu'on traverse l'Allemagne, on les voit partout. C'est une très bonne alternative. On parle beaucoup aussi de l'essence et du prix de l'essence. C'est un sujet très discuté. Et en Allemagne, l'essence est beaucoup plus chère que dans beaucoup de pays d'Europe. On a depuis quelque temps une taxe écologique de 15%. Et ça baisse légèrement l'utilisation de la voiture. Mais ce qui est bien en Allemagne, sont les villes, parce qu'ils sont pensés pour le vélo. Tout le monde a son vélo et il y a des pistes cyclables partout.
Dossier 7, page 118.
Sur tous les tons.
1.
Y a qu'à le dire, faut pas avoir peur.
2.
Faut qu'on fasse plus attention.
3.
T'as qu'à le faire, toi.
4.
On n'a qu'à lui téléphoner, on en aura le cœur net.
5.
Ben, il n'y a plus qu'à trouver une solution.
6.
Oh, ils avaient qu'à nous prévenir, c'est de leur faute.
7.
Il faut qu'on soit plus vigilant.
8.
Faut pas se laisser faire, na.
9.
Vous n'aviez qu'à me le donner, je l'aurais pris.
Bilan, dossier 7.
Monsieur Ferrier, vous avez conçu et commencé à commercialiser une maison écologique. Pouvez-vous nous la décrire ?
Écoutez, c'est une maison simple qui évoque l'Europe du Nord. L'intérieur est très spacieux et lumineux. Mais surtout, c'est une maison plus saine, plus économe en énergie. C'est précieux dans un monde dans lequel forcément pétrole et gaz vont devenir de plus en plus coûteux. Elle est modulaire aussi, c'est-à-dire qu'on peut l'agencer comme on le désire.
Quel est son prix ?
Le prix clé en main est de 245 000 euros pour 210 mètres carrés.
Et quels matériaux utilisez-vous ?
Les plus sains et les plus durables, en choisissant les matières premières localement, ce qui permet de faire des économies sur le transport.
Et pour l'énergie ?
Alors là, on soigne particulièrement l'orientation et l'isolation de la maison. On installe un chauffage efficace, et pour cela, on a recours aux énergies renouvelables. On met, par exemple, des protections solaires qui évitent la climatisation en été et l'excès de chauffage en hiver. Pour l'eau, on installe des limitateurs de débit et des récupérateurs d'eau de pluie, ce qui permet une économie d'eau de 10% au minimum.
Est-on en avance en France par rapport aux autres pays européens ?
Et non. En matière d'habitat écolo, on est en retard par rapport à l'Europe et au reste du monde. Il y a plus de 15 ans que les Allemands habitent des sortes de maisons thermos dans lesquelles on peut presque se passer de chauffage. Les Suisses, eux, ont un programme analogue baptisé Minergie. Tous deux sont vraiment à la pointe. Même les Japonais, les Brésiliens et les Chinois s'y sont mis. En France, mis à part quelques immeubles collectifs bien pensés et quelques initiatives individuelles, on n'a pas grand-chose de concret à montrer. Mais ça va changer. Avec la certification HQE, haute qualité environnementale, de ces nouvelles maisons, on commencera à rattraper notre retard.
Dossier 8, je plaide.
Dossier 8, page 127.
Activité 4.
Bonjour monsieur, police nationale, vous avez les papiers du véhicule ?
Oui, voilà. Assurance, carte grise.
Votre permis de conduire ?
Attendez. Où est-ce que je l'ai mis ? Là ! Ah, bien sûr, il est dans la boîte à gants, là.
Le certificat d'assurance ?
Il est là, à sa place, sur le pare-brise.
Pas très lisible. Vous savez qu'il doit être mis bien en évidence.
Écoutez, c'est pas de ma faute si vous ne voyez pas bien.
Contrôle d'identité, vos papiers, s'il vous plaît.
Mais...
Vos papiers, s'il vous plaît.
Tenez.
C'est bon, circulez.
Dossier 8, page 129.
Activité 5.
1.
Madame, avez-vous exigé par lettre recommandée la pension alimentaire que votre mari n'avait pas payée ?
Oui, maître, je la lui ai réclamée plusieurs fois. Il ne m'en a jamais payé un centime.
Deux.
Alors, vous ne voulez plus retourner au domicile conjugal et vous voulez demander le divorce, c'est bien ça ?
C'est ça. Cette maison, je ne veux plus en entendre parler. Et si ma femme veut s'occuper des enfants, je les lui laisse et la maison avec tout ce qu'il y a dedans.
Trois.
Selon votre dossier, vous réclamez vos indemnités de licenciement à votre employeur et vous voulez le poursuivre au tribunal pour non-paiement.
Oui. S'il ne veut pas payer, je vais le faire avec votre conseil, maître. Parce que les indemnités, il doit me les payer.
Quatre.
Bon, nous sommes d'accord ? Je plaide l'irresponsabilité de votre fils et j'insiste sur ces moments de crise incontrôlable.
S'il vous plaît, maître, c'était pas de sa faute. Mais je le lui avais bien dit que ça finirait mal. Son père et moi, on lui disait de se faire soigner. On lui en a beaucoup parlé, vous savez. Il disait qu'il y réfléchissait.
8, page 130.
Activité 2 et 3.
Je vous ai vu rentrer le jeudi matin, vous et les 8 autres jurés, dans cette salle d'assises. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête lorsque vous avez rejoint cette salle d'assises bondée ?
Mais c'est vrai qu'on a eu, un trinque monstre. Et puis il y avait un silence, et tout le monde nous fixait. Et en fait, nous, on ne savait plus qui regardait, quoi. Donc, je crois qu'on baissait tous un petit peu la tête. On regardait tous le bureau où on avait passé 6 mois à écrire. Et on était un peu dans le vide en se disant, vivement que le président arrive, ça va détendre un peu.
Vous aviez la particularité d'être le juré assis le plus près de Maurice Papon. Vous le regardiez souvent pendant les audiences, pendant ces 6 mois. Comment ça se passait ?
Ben, au début, que les audiences ont commencé, je n'osais pas trop le regarder. Et puis, au fur et à mesure des débats, effectivement, je le regardais. Quand il parlait, en fait, je me tournais vers lui. Il me fixait. Au départ, je sais que je baissais les yeux quand il me fixait. Et puis, au fur et à mesure des débats, il me fixait. Ça me dérangeait plus, quoi.
Ça vous a passionné, ces 6 mois?
Ah oui, ça, pour nous passionner, ça nous a passionnés, oui. Sinon, je crois quand même, le président a été étonné que les 9 jurés titulaires qui ont été tirés au sort au départ soient encore là le jour du verdict.
Dossier 8, page 131.
Rendez-vous alterculturel.
Pour moi, la différence la plus importante, c'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence, concept essentiel dans le droit anglais. En principe, il faut des preuves irréfutables, évidentes, pour inculper un individu et le mettre en prison. La présomption d'innocence est un droit qui permet à une personne d'être considérée comme innocent en attendant que sa culpabilité soit reconnue ou non. Autrement dit, l'individu doit bénéficier d'un traitement qui se rapproche de celui de n'importe quel citoyen. C'est pourquoi, en Angleterre, on a vu en 1993 la Cour d'appel de Londres annuler, purement et simplement, un procès criminel parce que la télévision avait joué un rôle négatif en suggérant la culpabilité de l'accusé. Bien qu'il soit affirmé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, je crois que ce concept de présomption d'innocence n'est pas énoncé dans le Code pénal français.
Dossier 8, page 132.
Activité 2.
Le 14 octobre 1793, à ce moment-là, les troupes françaises se battaient aux frontières contre les armées royalistes, Marie-Antoinette, la veuve Capet, a comparu devant le tribunal révolutionnaire. 2 avocats avaient été désignés la veille pour la défendre, et ils ont dû improviser leur plaidoirie. Au bout de 2 jours d'audience, 14 et 15 octobre, malgré leurs efforts, ils n'ont pas pu modifier la conviction du tribunal. Marie-Antoinette était condamnée à mort et l'exécution aurait lieu le lendemain.
Après une dernière nuit passée à la conciergerie, elle a été emmenée à l'échafaud. Ce jour-là, sur la place de la Concorde, la foule était nombreuse. On rapporte qu'avant son exécution, elle s'est tenue très droite et digne, rejetant d'un coup de tête le bonnet qu'elle devait porter. 3 jours plus tard, Axel Fersen écrivait à sa sœur. Elle ne vit plus. Ma douleur est à son comble. Je ne sais comment je vis encore.
L'année suivante, les accusateurs de Marie-Antoinette étaient exécutés à leur tour.
Dossier 8, page 134.
Sur tous les tons.
Où étiez-vous entre 11h et midi mardi dernier?
À la boulangerie, j'ai acheté du pain.
Et vous avez mis 1 heure pour acheter une baguette?
J'ai un peu parlé avec la boulangère, on se connaît.
Ah, eh bien elle ne s'en souvient pas du tout.
Elle ne s'en souvient pas?
Non, alors je répète, où étiez-vous mardi dernier entre 11h et midi?
Je vous assure que je bavardais avec Madame Martin, même si elle ne s'en souvient pas.
Ce n'est pas la peine d'insister.
Mais je vous assure, mais j'étais à la boulangerie. À la boulangerie.
Bilan, dossier 8.
Vous partez à l'étranger cet été, vous comptez faire des achats. Attention à ce que vous rapportez de votre voyage. Attention aux produits alimentaires, aux textiles, aux bijoux et autres souvenirs de vacances. À tout moment, vous pouvez être contrôlé par les services douaniers. Dans les aéroports, aux frontières, avec les pays non membres de l'Union européenne, mais aussi sur la route par des brigades de la douane volante. Les douaniers seront intraitables, en particulier sur les contrefaçons, même si vous protestez de votre ignorance. Edith Robles, directrice adjointe des douanes.
Dans certains cas, la bonne foi du passager est difficile à admettre. Rentrer d'Asie avec une montre Cartier payée 10 euros, par exemple, on a du mal à croire que le voyageur ne le savait pas.
Considérée comme une atteinte à l'économie nationale, la contrefaçon représenterait un manque à gagner de 6 milliards d'euros par an. Et selon les statistiques, une entreprise sur deux s'estime actuellement touchée par ce problème. Edith Robles.
Il faut savoir aussi que certains de ces produits peuvent être dangereux pour le consommateur. Des jouets inflammables ou des médicaments mal dosés ont eu des conséquences désastreuses.
Pour toutes ces raisons, les sanctions ont été aggravées depuis 1994. Détenir, importer ou exporter un produit de contrefaçon constitue un délit passible de lourdes amendes douanières de 150 à 300 000 euros, mais aussi de sanctions pénales, jusqu'à 3 ans de prison dans certains cas. Renseignez-vous également très précisément sur les produits duty-free vendus dans les boutiques hors taxes des aéroports. Même au sein de l'Union européenne, les quantités sont strictement limitées. Lors d'un contrôle, les marchandises peuvent être saisies et vous devrez aussi payer une amende.